Merci José pour la lecture. Content d'être avec vous et de continuer à étudier le Sermon sur la montagne, continuer à étudier ce texte ensemble et de voir ce que Dieu veut nous enseigner au travers de ça. Et avant qu'on se lance dans l'étude du texte, je vous invite à prier, comme on le fait souvent, on a besoin de l'aide de Dieu, n'est-ce pas, pour comprendre sa parole. Alors prions ensemble pour demander à Dieu son aide. Notre Dieu, on te remercie pour le privilège d'être réunis, d'être ensemble et d'avoir sous nos yeux un texte que tu as voulu nous communiquer, par lequel tu veux nous enseigner encore aujourd'hui. On prie que tu sois à l'œuvre, notre Dieu, pour ta gloire, que tu sois glorifié alors qu'on écoute ta parole. On prie que tu sois glorifié en faisant en sorte que ta parole pénètre dans nos cœurs et qu'elle porte du fruit dans notre vie, et qu'elle nous amène à nous confier en toi davantage et à vivre pour toi. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on prie cela. Amen. Alors comme Steve l'a dit, on est une église composée de gens très différents, n'est-ce pas, d'arrière-plan, de nationalités différentes, et même ce matin, j'imagine, on est très différents les uns des autres, certains qui viennent dans cette église depuis des années, certains qui viennent à l'église depuis des années, et puis peut-être d'autres pour qui c'est la toute première fois qu'ils mettent les pieds dans une église, certains qui se disent chrétiens et qui vivent la foi chrétienne depuis des années, et peut-être d'autres qui sont en questionnement, qui se posent des questions par rapport à la foi chrétienne. Mais peu importe qui on est ce matin, je pense qu'on partage tous la même chose. On sait tous ce à quoi ressemble l'inquiétude. On sait tous ce à quoi ressemble l'anxiété. Le fait de penser à quelque chose et de ne pas pouvoir ne plus y penser. On sait tous à quoi ça ressemble, de ressentir un poids au-dedans de nous-mêmes, d'avoir une montagne face à nous. Et pour chacun de nous, ce serait des choses différentes. Je ne sais pas ce qui vous pèse en ce moment, ce qui vous empêche de dormir la nuit, ce qui fait que vous retournez sans arrêt, sans trouver le sommeil. On veut tous traiter cette inquiétude, traiter cette anxiété. Mais dans le passage qu'on a lu, on a le remède pour l'anxiété. On a la solution de Jésus pour traiter l'inquiétude, pour traiter les soucis du lendemain. Alors comment faire pour plus s'inquiéter du lendemain ? Il y a deux choses qu'on va voir dans ce passage. Faites le bon choix et faites confiance à Dieu. C'est les deux points pour notre prédication ce matin. Premièrement, faites le bon choix dans les versets 19 à 24. Dans ces premiers versets, il y a trois images que Jésus utilise pour partager la même idée. Il faut choisir et il faut faire le bon choix. Il faut choisir et il faut faire le bon choix. Pas simplement que c'est un choix à faire une fois pour toutes, mais un choix qui est constant. Jésus montre par là qu'un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui est dévoué à Dieu par-dessus tout. Quelqu'un qui n'a pas des affections qui sont partagées. Quelqu'un qui a fait le bon choix, qui continue à faire le bon choix et qui vit en conséquence de ce bon choix. Dans la première image, Jésus parle de deux trésors dans les versets 19 à 21. Deux trésors qui sont à deux endroits différents. Il dit qu'on peut soit amasser des trésors sur la terre, soit amasser des trésors dans le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire d'amasser des trésors sur la terre ? C'est vivre pour notre vie pour des choses qui sont éphémères. Vivre notre vie pour des choses qui ne vont pas durer plus loin que cette vie ici-bas. Et je pense que dans un sens, on a une référence à ce qu'on a vu la semaine dernière. On étudiait la semaine dernière la première partie de Matthieu 6. On voyait que Jésus dénonçait les hypocrites qui faisaient des choses pour recevoir l'applaudissement de la part des hommes, pour recevoir la gloire qui vient de la part des hommes. En faisant ça, ils sont en train d'amasser des trésors sur la terre, d'accumuler des choses qui sont temporaires et qui sont sans vraie valeur. Mais de l'autre côté, comme on va le voir dans les versets suivants, on a aussi ici une référence à l'argent. Amasser des trésors sur la terre, c'est vivre de manière égoïste pour mon confort matériel. C'est avoir ça comme objectif principal qui va gouverner le reste de ma vie. Et Jésus montre à quel point ça n'a aucun sens de vivre comme ça, en utilisant l'image d'un trésor. Un trésor physique que l'on garde, il n'est pas vraiment en sécurité. Il est toujours à la proie des voleurs qui veulent le dérober. Mais aussi, ce trésor est bien temporaire. Il est à la proie des mythes et de la rouille qui vont le dévorer. Bref, un trésor terrestre ne va pas durer. Jésus utilise cette image pour décrire tous les trésors terrestres, tout ce à quoi on pourrait attacher de la valeur et ce pourquoi on pourrait vivre. Ce n'est pas que c'est mauvais en soi, mais c'est que ça n'a pas de valeur ultime. Ça va disparaître. Et donc, il ne faut pas mettre tous ses efforts à amasser ce type de trésors. Plutôt, ce qu'il faut, Jésus nous dit, c'est amasser des trésors, mais dans le ciel. Là encore, je pense qu'on a une référence à ce qu'on a vu la semaine dernière. Jésus encourageait à faire les bonnes choses avec de bonnes motivations. Pas pour les gens, mais pour la gloire de Dieu. Dans le secret de nos cœurs, en n'ayant que Dieu devant nos yeux. Et il était dit que Dieu nous le rendra. Ces récompenses dont il était parlé, ce sont ces trésors dans le ciel. Il ne s'agit pas de trésors physiques, mais il s'agit de faire sur cette terre des choses qui ont un impact dans l'éternité. Il s'agit de vivre pour ce qui dure. Il s'agit, comme on va le voir un peu plus loin, de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et ça, Jésus dit, c'est bien mieux, parce que personne ne peut nous voler ce trésor. Et ce trésor durera pour toujours. Alors on doit choisir, et on doit choisir le bon trésor. La deuxième image que Jésus utilise, c'est l'illustration d'un œil qui serait comme une lampe qui éclaire tout le corps, dans les versets 22 et 23. Alors, ce n'est pas évident de savoir le sens précis de cette image, mais je crois que voilà ce qu'on pourrait dire, que ici, l'œil est comparé à une lampe. L'œil est pour le corps ce qu'une lampe est pour une pièce. La lampe éclaire la pièce, et de la même manière, un œil en bon état aura un impact positif sur notre être tout entier, alors qu'un œil en mauvais état aura un impact négatif. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un œil en bon état ? Littéralement, ici, quand il est dit si ton œil est en bonne santé ou en bon état, il est question d'un œil qui est simple, littéralement. C'est-à-dire un œil qui n'est pas partagé, qui n'est pas divisé, qui a un seul objectif. Un œil qui est orienté exclusivement dans une seule direction. Et ça correspond bien avec le contexte des versets juste avant, les versets juste après, où on voit que Jésus encourage ses disciples à avoir une loyauté exclusive envers Dieu, à ne pas être divisé, à ne pas être partagé. Donc tout comme notre œil affecte notre corps, si nos ambitions sont partagées, si elles ne vont pas toutes dans une seule direction, vers Dieu et vers sa gloire, alors ça aura un impact sur toute notre vie. Et c'est ce qu'on voit aussi avec la dernière image que Jésus utilise dans cette première partie du texte, au verset 24, celle de deux maîtres différents. Et on connaît peut-être un peu mieux cette phrase de Jésus. Je vais la relire au verset 24, où il dit « Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. » Alors, il faut avoir en tête que quand il est question de servir deux maîtres ici, c'est différent de ce qu'on connaît aujourd'hui, où on peut facilement travailler pour deux patrons, faire un travail à mi-temps, cumuler les deux, ce n'est pas un problème. Mais ce n'est pas ce dont il s'agit ici. Quand il est question de maître et de les servir, il s'agit d'une loyauté exclusive. Il s'agit d'appartenir à ce maître, de le servir entièrement, avec ce que l'on a, avec ce que l'on est. Et on ne peut pas en servir deux à la fois. On doit choisir. C'est soit l'un, soit l'autre. Et Jésus applique cela à la richesse en disant qu'on ne peut pas servir Dieu et mammon. Ça vient du mot araméen pour désigner la richesse. Ici, Jésus désigne l'argent personnifié, la richesse avec un grand R, on pourrait dire, en nous disant qu'il faut choisir pour qui on veut vivre, Dieu ou l'argent. On ne peut pas faire 50-50. Jésus n'est pas en train de dire ici que l'argent est mauvais en lui-même, que pour pouvoir servir Dieu, alors il faut vider son compte en banque. Non, ce n'est pas ce que Jésus dit ici. Mais Jésus dit qu'il ne faut pas vivre pour l'argent. Il ne faut pas vivre en étant animé par l'amour de la richesse, la confiance dans nos richesses, en étant guidé par l'amour de l'argent. Et on peut facilement penser que cette tentation est seulement pour ceux qui sont vraiment riches. Mais quelqu'un dans le passé m'avait aidé à comprendre que cette tentation nous concerne tous, peu importe le montant sur notre compte en banque. Parce que vivre pour l'argent, ce n'est pas simplement vivre dans la richesse, mais c'est avant tout, peu importe notre situation financière, toujours vouloir le prochain palier. Peu importe le palier de richesse ou de confort sur lequel on est, on regarde toujours plus haut, avec convoitise, en étant satisfait de ce que l'on a, mais on aimerait quand même un peu plus, en convoitant toujours un peu plus, en regardant avec convoitise vers le palier suivant. C'est ça que Jésus dénonce ici, ce désir d'avoir toujours plus, cette soif de posséder que la Bible appelle idolâtrie dans Colossiens 3. Parce que quand notre affection est orientée vers la richesse ou vers quoi que ce soit d'autre, alors notre affection n'est plus orientée vers Dieu. On doit mettre ça de côté, ce désir, ce mauvais désir, et choisir pour qui on veut vivre. Donc c'est la même chose que Jésus dit dans ces trois images au final. Il faut choisir. C'est l'un ou l'autre. Et ultimement, c'est une question de cœur. Jésus n'est pas en train de dénoncer ici un montant sur un compte en banque. Il n'est pas en train de dire non plus qu'il faut rejeter tout intérêt pour les choses matérielles et aller vivre dans un monastère où on passerait son temps qu'à prier. Non, ce n'est pas ce que Jésus met en avant ici. Ce que Jésus vise ici, c'est l'orientation de notre cœur. On peut voir ça avec le verset 21. Regardez ce que le verset 21 nous dit. « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Il y a un lien entre notre trésor, ce que l'on chérit le plus, ce pour quoi on vit, ce à quoi on consacre notre temps, notre énergie, nos pensées, nos désirs. Il y a un lien entre ce trésor et notre cœur, l'intérieur de nous-mêmes. Vivre pour amasser des trésors sur la terre montre qu'on a le cœur placé au mauvais endroit. Notre trésor, ce que l'on chérit le plus, c'est au final le reflet de notre cœur, de ce qui est à l'intérieur. Si ce qui est le plus précieux pour nous, ce sont les choses de cette vie, de cette terre, alors forcément notre vie va suivre. On va vivre pour ces choses. Et donc ce que Jésus veut faire ici, c'est réorienter notre cœur. Amener notre cœur à être passionné pour Dieu. Amener notre cœur à être passionné pour la gloire de Dieu, pour les choses qui ont une valeur éternelle, parce qu'ensuite notre vie va suivre. On va naturellement vouloir vivre pour ces choses. Alors, puisque les deux vont ensemble, notre trésor et notre cœur, il faut choisir. On ne peut pas avoir notre trésor à un endroit et notre cœur à un autre endroit. Ils vont dans la même direction. On ne peut pas dire que Jésus est ce qu'il y a de plus précieux pour nous en ayant une manière de vivre qui contredit cela. Ce serait plutôt la preuve qu'il y a autre chose, plus précieux que Jésus, dans notre cœur. Comment savoir si on a le cœur bien placé ? Si on est en train de poursuivre le bon trésor, ben on peut se demander, mais quels sont mes désirs et mes aspirations les plus profondes? Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux? Qu'est-ce qu'il y a dans cette vie que j'aimerais avoir et je me dis que si je l'avais, je serais vraiment comblé, vraiment satisfait. Tout irait bien, pour toujours. Ben c'est ça notre trésor. C'est ça qui compte le plus pour nous. Et la réponse à ces questions va définir où on va investir notre temps et notre énergie. Si ce qu'on veut par-dessus tout, c'est gagner beaucoup d'argent, avoir une belle maison, avoir de belles vacances, voyager dans le monde entier, bah alors on va être pris par ces objectifs. Et naturellement, les valeurs du royaume de Dieu vont être mises de côté. Vont être mises de côté par autre chose qui compte plus pour nous. Et ce n'est pas que ces choses sont intrinsèquement mauvaises, mais c'est qu'aucune de ces choses n'a d'importance ultime. C'est ça que Jésus veut montrer ici. Toutes ces choses vont disparaître. Ce n'est pas qu'il faut rejeter ces choses, mais il ne faut pas vivre pour ces choses. Il ne faut pas vivre pour ces choses comme objectif ultime. Ce passage nous montre que ces choses terrestres n'ont pas d'importance ultime, n'ont pas de poids à la lumière de l'éternité. Et donc, il ne faut pas les laisser gouverner notre vie. C'est pour ça qu'il faut choisir le bon trésor, le bon œil, le bon maître. On ne peut pas faire 50-50. On ne peut pas partager notre cœur. C'est soit l'un, soit l'autre. Peut-être que vous êtes ici et vous appréciez les enseignements de Jésus. Vous appréciez le christianisme et vous dites « ce serait mieux pour moi d'ajouter simplement Jésus comme un passe-temps à ma vie parmi d'autres ». Parce que vous n'êtes peut-être pas prêt à abandonner autre chose qui a plus de place dans votre cœur pour suivre Jésus. Si c'est le cas, ce passage s'adresse à vous et vous montre que vous ne pouvez pas rester assis entre deux chaises. Vous devez choisir. c'est soit l'un, soit l'autre. Il est dit au verset 24, « Nul ne peut servir de maître. » Personne, il n'y a pas d'exception. Il n'est pas dit personne sauf telle ou telle personne. Non, personne ne peut le faire. Je crois que ça s'adresse aussi à vous, les ados, les jeunes qui ont grandi dans l'Église, vous avez grandi dans une famille chrétienne. Vous avez peut-être un choix à faire et vous ne pouvez pas rester assis entre deux chaises. Avoir un pied dans l'Église en voulant suivre Jésus et un pied dans le monde. Vous devez choisir pour qui vous voulez vivre. Vous devez choisir qui vous voulez suivre. C'est un peu comme à l'Euro en ce moment. Peut-être qu'à l'Euro, vous aviez deux équipes que vous soutenez pendant l'Euro. Mais à un moment donné, il y a un clash, n'est-ce pas ? Je soutenais la France, je suis français. J'aime beaucoup la Belgique. J'ai passé beaucoup de temps en Belgique. Mais qu'est-ce qui se passe quand il y a France-Belgique ? Ben, je dois choisir. Je ne sais un petit peu à quel choix j'ai fait, mais je dois choisir. C'est la même chose pour toutes les choses de cette vie. On peut essayer d'avoir deux choses à la fois, mais qu'est-ce qui se passe quand elles rentrent en compétition ? On doit choisir. On doit faire un choix. C'est soit l'un, soit l'autre. Là encore, ça ne veut pas dire mettre de côté toutes les choses de ce monde, mais il s'agit de décider qui règne dans notre cœur. Ce qui va orienter nos choix, notre manière de vivre et nos décisions. Et c'est quelque chose qui concerne tout le monde, même si on est chrétien depuis des années. Ce n'est pas un choix une fois pour toutes, mais c'est un choix constant de dire « Mais est-ce que mes affections sont orientées dans une seule direction, dans un seul endroit ?» Et ça va impliquer de sacrifier même un peu de confort si ça nous permet de servir le Seigneur et d'être utile à son service. Ça peut impacter nos choix de carrière, ne pas penser à ça qu'en fonction de nous-mêmes, en fonction du salaire, du prestige, mais se demander aussi si tel travail, tel poste va me prendre de l'énergie que je pourrais investir ailleurs pour prendre soin de ma famille, pour m'investir dans l'Église, pour être utile autour de moi. Ça peut impacter notre choix lorsqu'on pense à déménager quelque part. Au lieu de penser à cela qu'en fonction de nous-mêmes, de ce qui est idéal pour nous, de se demander, mais est-ce qu'il y aura une église que je pourrais rejoindre là-bas, une communauté dans laquelle m'investir ou grandir? Je crois que pour certains frères, ça pourrait impliquer de faire des études à l'IBB pour servir dans le futur comme pasteur alors qu'il y a tellement de besoins autour de nous. Pour les jeunes qui sont face à beaucoup de décisions, études, lieu d'études, carrière, futur conjoint, ça implique de penser à ces décisions à la lumière de l'éternité, en pensant à ce qui pourrait honorer Jésus au maximum. C'est ça que Jésus veut encourager ici, un cœur dévoué à Dieu, avec les bonnes priorités. Et avant de passer à la suite, c'est intéressant de voir le lien qu'il y a entre ces versets et les versets suivants qui vont parler de manière plus directe de l'anxiété, de l'inquiétude. Si on lutte avec l'inquiétude, si on lutte avec l'anxiété, peut-être que c'est parfois parce qu'on n'a pas les bonnes priorités. Peut-être que c'est parce qu'on a un cœur qui est partagé, parce qu'on est trop attaché à ces choses matérielles ou anxieux de ces choses qui ont au final pas tant d'importance que ça. Ou peut-être qu'on veut répondre à l'anxiété, à l'inquiétude de la mauvaise manière, en plongeant, en se confiant dans le matérialisme, en se confiant dans nos biens. On s'inquiète du lendemain, mais on se dit « Non, mais ça va, le frigo est plein, mon compte en banque est en bonne santé, alors tout va aller bien. » On cherche la solution à l'inquiétude, à l'anxiété, mais au mauvais endroit, dans des choses qui ne sont pas vraiment sûres. Ce n'est pas ça la bonne solution à l'inquiétude. Ça, c'est se confier dans quelque chose qui est éphémère, qui est incertain. Ce qu'il faut, c'est traiter notre inquiétude autrement. Et c'est ce qui nous amène au deuxième point, à la suite du passage, « Faites confiance à Dieu », dans les versets 25 à 34. Après avoir recadré nos cœurs, recadré nos priorités, une question peut venir, mais qu'est-ce qu'il en est de nos besoins matériels ? D'accord, pour ne pas vivre pour ces choses, pour ne pas être animé par ces choses, mais on a quand même besoin de vivre. Qui va pourvoir à tous ces besoins ? Se nourrir, se vêtir, etc. Quelle est la réponse de Jésus ? Regardez avec moi le verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Qu'est-ce que Jésus dit ? Ne vous inquiétez pas. Alors, il y a différents types de, ou différentes manières de dire « ne t'inquiète pas ». Il y a certaines manières de dire « ne t'inquiète pas » qui nous font nous inquiéter encore plus, n'est-ce pas ? Par exemple, quand à la maison, il y a du bricolage à faire, je dis à Jessica, mon épouse, t'inquiète pas, je vais m'en occuper, j'ai regardé une vidéo sur YouTube. Bah ça, c'est un type de t'inquiète pas qui produit de l'anxiété, qui produit de l'inquiétude, n'est-ce pas? Et ça se comprend. Mais il y a d'autres types de t'inquiète pas où on peut vraiment avoir confiance en la personne. C'est un expert dans le domaine. J'amène ma voiture au garage. Le garagiste me dit, vous inquiétez pas, revenez cet après-midi, tout sera réglé. Bah, j'ai confiance. J'ai été plusieurs fois, il a des bons avis sur Google, une bonne réputation. Je ne vis pas la journée dans l'anxiété. Parce que Jésus nous dit ici, c'est le deuxième type de ne vous inquiétez pas. On peut faire confiance à Dieu. Dieu a les meilleurs avis Google. Il est expert en tout, n'est-ce pas? On peut vraiment lui faire confiance. Et Jésus va donner deux exemples tirés de la nature pour montrer qu'on peut faire confiance à Dieu. D'abord, Jésus nous invite à regarder les oiseaux du ciel, au verset 26. Il dit, mais les oiseaux du ciel, ils ne font rien. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas. Il n'y a pas des fermes qui sont gérées par des oiseaux. Et pourtant, ils ont ce qu'il faut à manger parce que Dieu les nourrit. Par sa bonne providence, par son contrôle de toute chose, de toute la création, Dieu fait en sorte qu'ils aient ce qu'il faut pour vivre. Ensuite, Jésus nous invite à observer l'herbe des champs au verset 28, où on pourrait dire les fleurs qui sont dans les champs, les belles fleurs de Galilée. Là encore, ces fleurs ne font rien. Elles ne travaillent pas. Il n'y a pas des usines pour fabriquer des pétales pour les fleurs, n'est-ce pas? Et pourtant, Dieu les revêt, Dieu les habille magnifiquement bien. Elles sont encore plus belles que le grand roi Salomon, le roi qui avait tout ce qu'on peut imaginer, parce que c'est Dieu qui en prend soin. Donc dans ces deux exemples, Jésus montre que Dieu est capable de prendre soin de nous, parce qu'il le fait sans problème pour les oiseaux, pour les fleurs des champs, pour sa création. Si on ouvre les yeux, qu'on regarde autour de nous, il y a toute une création dont Dieu prend soin, jour après jour. Alors assurément, il va aussi prendre soin de nous. Et ce n'est pas simplement que Dieu est capable de prendre soin de nous, mais c'est aussi qu'il veut prendre soin de nous. Encore plus qu'il veut prendre soin des oiseaux et des fleurs. Et Jésus va souligner ça dans les deux exemples. Si on regarde au verset 26, quand il parle des oiseaux, il termine en disant « Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?» Nous valons beaucoup plus que des petits oiseaux. Et donc si Dieu prend soin des petits oiseaux, bah, bien plus forte raison, il prendra soin de nous, qui valons beaucoup plus à ses yeux. Et on voit la même idée avec les fleurs des champs au verset 30. Il est dit, si Dieu revêt merveilleusement bien ces fleurs qui ne vont pas durer, qui vont rapidement disparaître, alors à bien plus forte raison, il prendra soin de nous. Donc Jésus ne se contente pas de dire, ouais, mais t'inquiète pas. Il ne corrige pas notre inquiétude en la mettant à la poubelle, en l'ignorant. Mais plutôt, Jésus veut tourner nos regards vers Dieu pour montrer qu'on n'a pas de raison de s'inquiéter, qu'on peut lui faire confiance. Que Dieu prend soin de nous. Alors comment ne plus s'inquiéter du lendemain? Comment briser le cercle de l'anxiété quand notre âme est rongée en nous-mêmes? Ben, il faut tourner les regards vers Dieu. Tourner les regards vers la puissance de Dieu, vers sa bonté, vers ses promesses. Et c'est pour ça que Jésus décrit l'inquiétude ici comme un manque de foi. Si on regarde au verset 30, Jésus termine en disant « Ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ?» S'inquiéter de ce dont Dieu s'occupe, c'est faire preuve d'un manque de foi. C'est un manque de confiance en Dieu, c'est douter de la puissance de Dieu, douter que Dieu soit capable d'agir. Ou c'est douter de la bonté de Dieu, douter que Dieu veut agir. S'inquiéter pour ce qu'on ne contrôle pas, bah non seulement c'est inutile, mais c'est aussi refuser de laisser les choses entre les mains de Dieu qui, lui, contrôle toutes choses. Regardez le verset 27. Jésus dit, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée ?» C'est une unité de mesure, environ 50 cm, à la durée de sa vie. Bah, l'inquiétude n'est pas productive. Elle ne sert à rien. En s'inquiétant, on ne peut même pas ajouter 50 cm à la durée de notre vie. Ça ne sert à rien de s'inquiéter. On n'a aucun contrôle là-dessus. On ne peut pas ajouter une semaine, 5 minutes, même pas 5 secondes. C'est Dieu qui contrôle la durée de notre vie. C'est Dieu qui contrôle toute chose. Donc la solution à l'inquiétude, ce n'est pas plus d'inquiétude, mais c'est la foi. la confiance en Dieu. La confiance que Dieu connaît, la confiance que Dieu peut agir, la confiance que Dieu veut agir. Quand on est anxieux, c'est facile de se retourner sur nous-mêmes, de se retourner sur notre inquiétude. On se centre sur la raison de notre anxiété. Mais ce passage nous montre que ce qu'il faut quand on est anxieux, c'est se tourner vers Dieu. Tourner nos pensées, tourner nos regards vers Dieu. En lisant certains passages de la Bible, comme celui-ci par exemple, en priant, en écoutant des chants chrétiens, en parlant avec un frère ou une sœur de l'Église, en venant à l'Église, en regardant la nature autour de nous et en regardant que Dieu prend soin de la nature et il le fera pour nous-mêmes. Toutes sortes de choses qui détournent nos regards de notre anxiété et nous amènent à faire confiance à Dieu. Et ça ne veut pas dire qu'on doit ignorer nos besoins qui sont légitimes. Ce passage ne veut pas dire qu'il faut tout mettre à la poubelle et se soucier de rien. En fait, ce passage reconnaît cela. Regardez le verset 32. On va voir la première partie un peu plus tard, mais si on regarde la deuxième partie de ce verset, il est dit « Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin de toutes ces choses. » Dieu sait qu'on a besoin de ces choses. C'est un vrai besoin, des besoins légitimes. Ce n'est pas mauvais de vouloir ces choses. C'est normal. Et donc, il faut ici corriger une mauvaise compréhension du christianisme, comme si le fait de dire qu'on voulait être dévoué à Dieu, de faire confiance à Dieu et de ne pas s'inquiéter, ça voudrait dire qu'il faut regarder avec dégoût toutes les choses de la terre. Non, ce n'est pas le cas. Les choses terrestres ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. Ce serait faux de dire que c'est plus spirituel de ne pas s'inquiéter de ces choses matérielles, de ne pas s'en soucier. Comme on l'a dit, ce que Jésus dénonce, ce sont des mauvaises priorités. Vivre pour les choses matérielles, vivre pour l'argent, et pas le fait d'avoir ces choses en elles-mêmes. Mais ensuite, on doit garder en tête que nos besoins matériels sont normaux. C'est normal qu'ils nous préoccupent. Jésus a montré ça plus tôt, en fait, dans le chapitre, dans la prière modèle qu'il a donnée à ses disciples, Notre Père. Qu'est-ce qu'on peut lire ? Au verset 11, l'une des demandes, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Cette prière désigne tous ses besoins physiques, ses besoins matériels. Et au travers de cette prière, on demande à Dieu de pourvoir ces choses. Ce n'est pas une prière pour l'abondance, ce n'est pas une prière pour la richesse. Ça ne veut pas dire que Dieu va tout régler, va nous donner une vie facile, mais c'est une prière pour que Dieu nous donne ce dont on a vraiment besoin. Que Dieu continue à prendre soin de nous dans tous les domaines de notre vie. Donc ce passage n'a pas pour but de nous dire d'arrêter de penser aux besoins matériels ou aux choses qui nous inquiètent, qui nous pèsent. C'est normal de se soucier de ces différentes choses. C'est normal de ressentir un certain poids face aux choses de la vie, face aux souffrances de la vie. C'est normal de se sentir dépourvu par moments. Mais ce passage nous montre comment traiter cela. Qu'est-ce qu'il faut faire de cette inquiétude, de ces soucis, en les amenant à Dieu dans la prière, en lui faisant confiance. Il faut les amener à Dieu. Et c'est ce qu'on voit ailleurs dans la Bible. Je cite par exemple Philippiens 4, les versets 6 et 7. Philippiens 4, versets 6 et 7, qui disent « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » Ce qu'il faut, c'est prendre cette anxiété et la remettre à Dieu dans la prière. Il faut se décharger sur Dieu de tous nos fardeaux, comme le dit un autre passage de la Bible. Et donc, on doit pouvoir faire une différence entre une mauvaise inquiétude, qui est un péché, et une planification, qui est sage, un souci des choses, qui est bon et qui est normal. Si on prend tout l'enseignement de la Bible ensemble, on peut voir à quel point la maturité, la sagesse inclut le fait de planifier, inclut le fait d'être responsable, inclut le fait de prendre soin de notre famille ou de ce que Dieu nous a confié. Et c'est important de souligner ça parce que quelqu'un pourrait lire ce texte et dire « Ah bah super, je vais vivre sans me soucier du lendemain, sans rien planifier, sans assumer mes responsabilités, je pense à rien, je vis juste au jour le jour en voyant bien ce qui arrive. » Mais ce serait mal comprendre ce texte. Ce que Jésus remet en cause ici, c'est la mauvaise inquiétude qui vient d'un manque de foi, d'un manque de confiance en Dieu. Ce que Jésus dénonce ici, c'est l'inquiétude qui essaye de s'occuper de ce dont Dieu s'occupe. Ce passage ne condamne pas le fait de planifier sagement pour le lendemain, mais plutôt le fait de s'inquiéter du lendemain qu'on ne peut pas contrôler, sur lequel on n'a aucun contrôle. Et c'est ce qu'on voit avec le dernier verset du passage, au verset 34, un passage bien connu, un dicton populaire. « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Quand on lit ce verset dans ce contexte, on voit qu'il est profondément centré sur Dieu. Ce verset nous montre que la vie chrétienne ne sera pas un long fleuve tranquille. À chaque jour suffit sa peine. Il y aura des peines, des difficultés à affronter, des raisons de s'inquiéter. Mais ce qu'il faut, ce n'est pas laisser ces peines du futur nous ronger, mais plutôt affronter un jour, chacun après l'autre, avec la grâce que Dieu nous donne. L'avenir n'est pas entre nos mains et on ne sait pas ce que chaque jour nous réserve. Et donc, ça ne sert à rien de spéculer sur les difficultés du futur, sur les choses qui sont hors de notre connaissance. Plutôt, chaque jour, il faut se focaliser sur ce que l'on connaît. Dieu, sa grâce, sa bonté, sa volonté de nous soutenir. Et donc, par exemple, si on fait face à un problème, à quelque chose qui nous rend anxieux, même en ce moment même, on a des craintes, on a de l'inquiétude, on a des choses qui tournent dans notre tête, mais on peut se demander, est-ce que le fait qu'on pense au problème, ça apporte des solutions, ou ça nous aide à nous y préparer, ou ça change certaines choses, ou est-ce que c'est juste en train de tourner en rond pour rien dans notre tête? Est-ce que le fait d'y penser, c'est en fait juste en train d'augmenter l'anxiété, d'augmenter la crainte? Si c'est le cas, il faut remettre ça à Dieu dans la prière, puis dire, on verra ça en temps voulu. C'est pas moi qui contrôle. À chaque jour suffit sa peine. On peut penser aux besoins de bâtiments pour l'Église. Ça fait des années, n'est-ce pas, que l'Église cherche un bâtiment, que ce soit loué, acheté, différentes choses. Ce n'est pas qu'on est en train de rien faire en disant c'est entre les mains de Dieu de toute façon, non? On ne s'inquiète pas, on ne fait rien. Non, ce n'est pas ça qu'on fait. Oui, on prie. Oui, on remet ce besoin à Dieu dans la prière. Et puis on agit. Et puis on réfléchit. Et puis on planifie et on fait des visites et on essaye de trouver des solutions. Mais on est à l'œuvre avec confiance, pas avec inquiétude. En sachant que Dieu prend soin de notre Église, en sachant que Dieu a pris soin de notre Église dans le passé et qu'il continuera à le faire dans le futur. En sachant qu'il pourvoira selon ses plans à une solution et que même si cette solution n'est pas celle qu'on voulait, même si cette solution n'est pas celle qu'on imaginait, il agira pour sa gloire. Et les choses ne sont pas hors de son contrôle. Et on sait en plus, comme on l'a expérimenté depuis quelques années, que même dans cette période d'attente, même dans cette période de déménagement, de différentes choses, Dieu continue à prendre soin de notre Église. Il est encore à l'œuvre, il est bon pour nous. Et alors qu'on termine gentiment, on doit revenir à la question des priorités. Parce que pour traiter l'anxiété, non seulement on remet ces choses dans la prière à Dieu, mais aussi on se concentre sur nos priorités. Dans un sens, on s'inquiète de ce qui est vraiment important. Et c'est ce qu'on voit dans les versets 31 à 33. Je vais juste relire ces versets. Voilà ce qui est dit. « Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous ? Ou que boirons-nous ? Ou de quoi serons-nous vêtus ? Car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice. » Et tout cela vous sera donné par-dessus tout. » Là encore, Jésus ne dénonce pas le désir légitime d'avoir ce qu'il faut pour vivre, mais plutôt il explique qu'il y a un contraste entre les païens, entre ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne font pas partie du peuple de Dieu, et ceux qui connaissent Dieu, les disciples de Jésus qui veulent le suivre. La différence, c'est qu'on ne poursuit pas la même chose. Les choses matérielles, ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu qui font cela, qui recherchent cela, qui courent après cela, comme on le voit avec le verset 32. Et ici, c'est une assez bonne description, en fait, du matérialisme, on pourrait dire. Être préoccupé sans cesse par les besoins du corps, par les besoins matériels. Vivre pour cela, avant toute chose. C'est ce qu'on voit autour de nous. L'objectif d'une vie, c'est de vivre pour avoir le meilleur confort possible. La meilleure maison, les meilleurs vêtements, la meilleure nourriture, les meilleures vacances, la meilleure réputation, ainsi de suite. Tout ce qu'il y a de meilleur. Ce passage nous dit, laissez ceux qui ne connaissent pas Dieu poursuivre cela. Ce n'est pas que ces choses sont mauvaises en elles-mêmes, mais vous ne soyez pas préoccupés par cela, ne vivez pas pour cela. Ce n'est pas là que se trouve l'objectif de votre vie. plutôt notre objectif se trouve ailleurs. Cherchez premièrement, il est dit, son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ce n'est pas très différent ici de ce qu'on a vu au début, n'est-ce pas ? Il faut vivre pour ce qui est éternel. Il faut vivre pour ce qui dure toujours, le royaume de Dieu et sa justice. La justice, c'est une manière de vivre qui honore Dieu, celle qui est décrite dans ce serment sur la montagne, celle qui découle de la grâce. Le royaume de Dieu, ce sont ces choses éternelles, ces choses qui durent. C'est vivre pour connaître ce Dieu-là et pour le faire connaître autour de nous. C'est ça qu'on doit rechercher. C'est ça qu'on doit poursuivre sans s'inquiéter du reste. Pas parce que le reste n'est pas important, mais parce que Dieu s'occupe du reste. Et si on en vient à douter, à un moment donné, de la bonté de Dieu, si on en vient à douter de la volonté de Dieu à agir, oui, non seulement on peut regarder à ce passage, non seulement on peut regarder à la nature autour de nous, mais on peut aussi, en tant que chrétien, regarder à la croix. Parce que c'est là, à la croix, que l'on voit la preuve la plus grande que Dieu se soucie de nous. Quand on voit le Fils de Dieu qui est cloué sur une croix, qui meurt, non pas pour des péchés qu'il aurait commis, mais pour le péché, le mal que nous, on a commis envers Dieu, que nous, on a offensé Dieu, que Dieu envoie son propre Fils payer à notre place, pour qu'on soit pardonné, pour qu'on soit racheté, pour qu'on soit adopté dans sa famille. Assurément, quand on voit cela, quand on regarde cela, on ne peut pas douter de la bonté de Dieu. On ne peut pas douter de l'amour de Dieu. On ne peut pas douter que Dieu est notre bon Père céleste. Et donc, quand Jésus nous dit, ne vous inquiétez pas, faites confiance à Dieu, on sait qu'on peut vraiment, vraiment lui faire confiance. Prions pour terminer. Oui, notre Dieu, on te remercie pour la croix, parce que c'est là qu'on trouve la preuve la plus grande de ton amour, de ton souci pour nous. On te remercie, notre Dieu, parce qu'on peut vraiment te faire confiance. On te prie que tu nous aides, notre Dieu, dans l'anxiété que l'on vit en ce moment, que peu importe le domaine, peu importe ce que ça concerne. On te prie qu'on puisse traiter cette anxiété de la bonne manière. Et on te prie qu'en toute chose, notre Dieu, on puisse avoir cette dévotion, cette loyauté exclusive envers toi, en ayant notre cœur placé au bon endroit. On prie ça pas pour notre gloire, mais pour ta gloire, pour que tu sois connu dans ce monde. C'est dans le nom de Jésus qu'on prie ces choses. Amen.